que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme, Radio Zone. Nous voilà toutes de retour après des longues vacances pour certaines, pour ne pas dire moi. Et oui, je suis là, Viviane, pour les nouvelles, car dans quelques instants, c'est les informels sur la pleine lune. Ensuite, à partir de 19h, Marjolaine et ses coups de cœur, qui bien sûr lorgnent du côté du Festival de la Bâtie, avec un programme époustouflant. En tout cas, à tout de suite pour les informels, le bulletin de nouvelles sur la pleine lune. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Oui, ça a changé, ce n'est plus 023, c'est 059. À tout de suite. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone, nos nouvelles. L'ouverture de la 4e conférence à Pékin pose et suscite bien des interrogations et des coups de force. Pour beaucoup de femmes, il fallait boycotter cette conférence pour protester contre les violations des droits de l'homme en Chine et plus particulièrement pour protester contre la violation contre les droits des femmes, surtout contre la manière dont les femmes sont traitées. Par exemple, la politique de planning familial brutale en Chine entraîne stérilisation et avortement forcé à une échelle massive, sans parler bien sûr de l'assassinat des petites filles. Pour d'autres femmes, au contraire, une fois la Chine choisie et pour des raisons politicardes sur lesquelles les femmes n'ont eu rien à dire, il fallait profiter de ces tribunes. Et c'est le cas des 10 000 délégués officiels et des 35 000 représentantes des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, en tout cas, le constat est grave. Les objectifs fixés en 1985 à Nairobi lors de la précédente conférence n'ont pas été réalisés et dans beaucoup de régions du monde, la situation des femmes va en se dégradant. Certains États rejettent même la notion d'égalité entre hommes et femmes pour lui préférer celle d'équité plus floue. La réunion préparatoire à New York a été marquée par l'offensive des forces conservatrices, le Vatican et l'Iran en tête avec l'Irak, l'Égypte, le Soudan, le Honduras, l'Argentine, le Guatemala et Malte qui se sont distingués par leur ardeur à vouloir revenir sur les acquis des conférences du Caire sur la population ainsi que des conférences de Vienne sur les droits des hommes, notamment en ce qui concerne le droit des femmes à avoir accès à l'information et aux services de santé et leur liberté de décision en matière de procréation. La plateforme qui a été choisie est un monument de discrétion et d'ellipse. Le texte qui sera discuté à Pékin, qui a été le fruit de ce consensus entre tous les États, qui signifie concrètement que les droits des femmes du monde entier ont été subordonnés à l'accord d'une minorité de pays intégristes, à l'Iran, allié objectif avec le Vatican. À force de négociations à la baisse, depuis des mois, le texte n'a plus aucun souffle, il est à peine illisible. Un tiers des textes est même entre ce qu'on appelle crochet, pour ne pas dire guillemets, c'est-à-dire que ce texte ne peut être rediscuté. Et qu'il y a des oppositions fondamentales à ces passages. Ainsi, il n'y a pas d'accord sur le paragraphe qui affirme que les droits fondamentaux des femmes font partie des droits universels de la personne. Parmi les termes actuellement refusés, citons prostitution, grossesse non désirée, mariage précoce, droit en matière de procréation, domination masculine, persécution fondée sur le sexe, stéréotypes sexuels, relations sexuelles non protégées, autonomie des femmes, groupes féministes, orientation sexuelle et indépendance. Et même la référence au droit pour les femmes d'être juges a été refusée. En revanche, la religion, les valeurs morales, les valeurs spirituelles sont à plusieurs reprises évoquées. Si la notion d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage et de planification familiale naturelle sont proposées, la reconnaissance que le viol perpétré en cours d'un conflit armé peut constituer un crime de guerre ou un crime contre l'humanité n'a pas fait l'objet d'un accord. La nécessité pour les gouvernements de prendre des mesures d'assistance pour les femmes réfugiées et déplacées de leur propre pays non plus. Il n'y a pas que les pays les plus réactionnaires qui sont intervenus. Les États-Unis, par exemple, se sont opposés à toute référence concernant les conséquences pour les pays pauvres et pour les femmes en particulier du fardeau de la dette et des politiques d'ajustement structurel. Sur le plan politique, il est ainsi question non pas d'égalité, mais de promotion de la femme. Ce n'est donc pas un hasard si le terme « droit des femmes » n'est jamais prononcé. Les États n'en veulent pas. La moitié de l'humanité continuera donc à devoir accepter l'humiliation d'être émancipée ou promue ou affranchie, comme les esclaves, sans que le scandale de la domination masculine planétaire et des violences contre les femmes qui quotidiennement garantissent cette domination méritent pas plus qu'une conférence tous les 10 ans. La spécificité de celle de Pékin, c'est qu'elle va entériner des régressions dramatiques pour les femmes du monde entier. En effet, si on essaye de voir ce qui se passe, c'est que dans le monde, on peut voir que, par exemple, les 2/3 du milliard d'analphabètes dans le monde sont des femmes, que parmi les milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté, les 2/3 sont également des femmes, que la santé est constitue toujours un des chapitres délicats de la conférence, puisqu'il y a toujours l'opposition entre État laïque et religieux sur la question du contrôle de la fécondité. Que dans les tiers-mondes, les femmes reçoivent moins de soins que les hommes, que chaque année, plus de 500 000 femmes meurent suite à des accouchements ou à des avortements. Les femmes participent bien sûr de plus en plus à la vie économique, mais leur salaire reste toujours inférieur à celui des hommes. Toujours en relation d'ailleurs avec cette conférence du Caire, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, a publié son rapport annuel qui dresse un tableau de la situation des femmes relativement sinistre. Au terme de son étude, le PNUD montre que la majorité de la population mondiale, les femmes, vivent toujours comme une minorité. Ainsi, on retiendra pour commencer qu'il n'est pas un seul pays où les femmes vivent en égalité parfaite avec les hommes. Elles décrochent moins de 10% des crédits bancaires ou encore elles représentent 70% des pauvres du globe. Et pourtant, elles bougent. Avec un peu d'attention, on constate que le féminisme emprunte souvent des chemins inattendus. Ainsi, les atteintes à l'environnement pénalisent-elles en premier chef les femmes, car la destruction des forêts contraint celles-ci à marcher 2 jours pour trouver du bois, alors qu'en général, il suffisait avant 2 heures. Plus de 50 000 femmes sont membres ainsi de l'association africaine Green Belt Movement, mouvement de la ceinture verte, qui a obtenu la plantation de plusieurs millions d'arbres et l'ouverture de nombreux centres de formation et d'éducation. Quant au mouvement de libération qui lutte contre l'oppression de tous et pour les droits de l'homme, il forme à l'évidence un riche terreau dès que le contexte politique le permet. Ainsi, les opposantes chiliennes après le départ en retraite de Pinochet se sont-elles retrouvées dans les mouvements féministes, de même que les militantes d'Afrique du Sud, une fois l'apartheid vaincu, ont-elles lutté pour obtenir de figurer à hauteur de 30% sur les listes de l'ANC. Et puis, bien sûr, le PNUD met en évidence ce fameux continent noir de l'économie que représente le travail féminin non rétribué ou sous-payé. En chiffrant la valeur réelle de ce travail, qui n'est pas reconnu comme valeur, les experts du PNUD sont arrivés à un résultat renversant. 23 milliards de dollars de la production annuelle mondiale, mais il faut ajouter à cela les 11 milliards du travail ménager. En tout cas, la Suisse est allée à Pékin avec un programme très serré, féministe, en tout cas en parole, peut-être moins dans les faits. La conférence, la délégation suisse s'apprête à taper du poing à la conférence. Cette délégation suisse, dirigée par la conseillère fédérale Ruth Dreyfus, ne tolérera pas un retour en arrière sur les principes universels. Les droits de la personne sont indivisibles et pas à géométrie variable, selon le sexe ou la culture. rappelé par Patricia Schulz les 5 autres points que la Suisse veut défendre. Violence, mutilation, contraception forcée, élimination des filles avant et après la naissance sont largement pratiquées. L'accès aux soins liés à la reproduction et l'information sexuelle doivent être très large pour adolescentes et adultes. Il faut développer la coopération et non pas plus humaine et non pas être uniquement dirigée vers, obsédée même par le marché et la croissance économique. Les dimensions féminines et écologiques sont trop négligées. Il faut également reconnaître la valeur des tâches ménagères non payées, favoriser les entrepreneuses et le partage des tâches, et également favoriser la participation politique des femmes au gouvernement. Ce sont en tout cas des très belles paroles, et la Suisse, pour concrétiser ce programme, en Suisse même, le canton de Neuchâtel vient de couper en deux les subsides du Bureau de l'égalité, c'est très bien. La police chinoise à Pékin, elle, est sur les dents. Elle a poursuivi ce week-end ses manœuvres d'intimidation à l'égard des protestataires qui s'expriment, surtout dans la conférence, dans le forum des ONG. L'attitude des autorités chinoises a suscité pas mal d'interrogations sur le bon déroulement de la conférence. Ainsi, la police chinoise a empêché des manifestantes musulmanes de sortir de l'enceinte du forum des ONG, qui se tient, je vous le vous rappelle, à 50 km de Pékin. Des dizaines de policiers en civil ont par ailleurs tenté de s'opposer à la manifestation d'un groupe de militants antinucléaires hors de l'enceinte du forum. Des lesbiennes ont pour leur part accusé la police d'avoir confisqué leurs tracts. De son côté, une avocate canadienne a déclaré avoir été frappée alors qu'elle distribuait des tracts sur la répression chinoise au Tibet. Plusieurs documents rédigés par les ONG ont finalement reçu l'autorisation de paraître, mais les autorités chinoises semblent avoir assorti ce feu vert de conditions, notamment que les publications ne dépassent pas le cadre du forum et ne contiennent bien sûr rien sur la Chine. Ce qui n'a pas empêché, bien sûr, les femmes de bouger. Ainsi, on a pu assister à une manifestation de tibétaines. 9 femmes tibétaines, soutenues par les très nombreuses déléguées, ont manifesté au Forum des femmes, qui se tient, comme je vous le rappelle, à 60 km de Pékin. Et puis, on a vécu des journées et des atmosphères de fête, avec des moments de bonheur et aussi des moments assez chauds, avec une bagarre pour l'instant verbale, sur la question du fondamentalisme islamique entre militantes et organisateurs. Un atelier sur le port du tchador a tourné à la confrontation froide mais sérieuse entre opposants et participants et partisans de la charia. Il y a eu, bien sûr, le journal indépendant du forum peut maintenant sortir. Et puis, on a également assisté à une manifestation des femmes du Maghreb qui sont entrées dans la salle de presse du forum officiel, se plaignant d'avoir été privées de tenir une réunion pourtant prévue de longue date avec d'autres délégations des pays musulmans sur les projets anti-intégristes de code de la famille. Et finalement, Hillary Clinton, arrivée hier à Pékin, s'est taillée une part de lion en dénonçant dans un discours assez musclé l'attitude de la Chine. Elle dit entre autres, il est indéfendable que trop de femmes membres des ONG qui souhaitaient participer à cette conférence n'aient pu le faire ou été empêchées d'y participer pleinement. Avortement. Ah non, excusez-moi, je voulais encore vous dire, est-ce que j'ai trouvé ma nouvelle? Que bien entendu, donc, comme vous savez, la France a décidé de lancer ses essais nucléaires, que son premier essai, c'est vraiment le cas de le dire, a été lâché, cette première bombe a été lâchée hier à 9h. et que plusieurs protestations ont eu lieu dans tous les pays. À Genève, entre autres, on a eu ce matin à 11h occupation de la compagnie aérienne Air France et ensuite manifestation, rassemblement plutôt à l'horloge Fleury, à la fois pour protester contre les essais, pour protester aussi contre la reprise de le relancement de Malville, de la centrale nucléaire de Malville. La protestation prend aussi des allures un peu plus symbolique, puisque les prostituées de Canberra ont décidé d'augmenter les prix quand elles ont des clients français. Elles doublent le tarif.
Alors, je crois aussi qu'en France, on a protesté, puisque aujourd'hui, mercredi à 18h, on était tous et toutes invités devant les mairies ou les préfectures pour manifester contre la reprise de ces essais nucléaires.
Bien, on continue sur les nouvelles. L'avortement. Les croisés américains de la lutte anti-avortement ont trouvé leur terre promise, les pays de l'ancien bloc soviétique. Le vide moral et juridique qui règne leur ouvre des perspectives sans précédent. Le groupe Human Life International, HLI, une organisation catholique établie dans le Maryland qui mène une croisade contre l'avortement dans le monde entier, a organisé à Kiev une conférence sur l'amour, la vie, la famille. Quel titre ? Les organisations pro-life américaines considèrent l'Europe comme un nouveau terrain d'action. Ainsi, HLI est engagée depuis longtemps aux côtés des mouvements anti-avortement irlandais. Operation Rescue, une autre association américaine, a exporté en France sa technique des occupations de cliniques pratiquant l'avortement. Aujourd'hui, c'est en Europe de l'Est que les groupes chrétiens de droite des États-Unis intensifient leur action. L'effondrement des régimes communistes y a laissé un vide moral et même juridique qui leur ouvre des perspectives sans précédent. On peut tenir une conférence dans n'importe quel hôpital, écrit le président de HLI. En Russie, ils vous accueillent à bras ouverts. Tout est possible. HLI n'est pas le seul groupe américain actif à l'étranger, mais il reste de loin le plus ramifié. Dans son entrepôt situé dans la banlieue de Washington, on trouve une multitude de paniers remplis de tracts, brochures, cassettes vidéo, objets divers tels que les pieds de bébé, des pins représentant le pied grandeur nature d'un fœtus de 10 semaines. Toute la marchandise attend là, prête à être expédiée dans différents pays de l'étranger. Pour HLI, la Pologne, c'est un rêve. Voici 2 ans, la Diète a adopté une loi interdisant l'avortement, sauf cas exceptionnel. Le taux d'avortement pratiqué a brutalement chuté, passant de plus de 12 000 en 92 à 700 en 93. Le vote de ce texte est principalement à mettre sur le compte de l'Église polonaise, mais aussi de HLI. L'organisation n'a pas ménagé son soutien, envoyant documentation et argent. « Nous avons accepté l'aide des Américains parce que la Pologne n'est pas un pays riche », affirme un bénévole de HLI Europe, dont le siège est à Gdańsk. La Pologne, qui compte plus de 90 organisations de défense du droit de la vie, sert aujourd'hui de tremplin à HLI vers d'autres pays comme l'Ukraine. Comme aux États-Unis, le débat sur l'avortement en Europe a pris une tournure nettement politique. En Irlande, les adversaires de l'avortement ont fait cause commune avec ce qu'on peut appeler la nouvelle droite. C'est exactement l'équivalent de la nouvelle droite américaine, explique la responsable du planning familial irlandais. Ainsi, Siegfried Ernst, un néofasciste allemand qualifié de plus grand défenseur du droit à la vie en Europe par le président de HLI, occupe le poste de conseiller au sein de cette organisation. On assiste à une révolution culturelle dans l'ex-Union soviétique et dans les pays de l'ancien bloc communiste. Et l'émergence d'une droite chrétienne plus puissante sur le plan politique n'est qu'une question de temps. C'est ce que nous dit une revue du planning familial américaine. Il prépare le terrain en ce moment. Toujours sur le projet de l'avortement, cet été, nous avons pu voir que l'Espagne avait proposé un projet d'avortement un peu plus libéral que ce qu'il y a aujourd'hui, suscitant une tollée véritable. Qu'en France, les procès contre les Operation Rescue, ces bandes qui justement entrent dans les avortements et essayent de bloquer la marche de l'hôpital, les procès ont vu apparaître à la fois des condamnations assez dures et un acquittement à Paris en faisant appel à un article de loi qui justifie l'action des commandos dans le cas, je le cite l'article, qu'un danger actuel ou imminent permet d'accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde d'une personne, on peut avoir commettre un acte illégal. Et c'est en s'appuyant sur cet article que le tribunal de Paris a acquitté un commando anti-avortement. Le débat sera donc très chaud cet automne sur cette question en France. Le dimanche 27 août, le Mexique a vécu une journée de démocratie extraordinaire puisque plus d'un million de personnes ont participé à la consulta nationale lancée par les zapatistes. Ils ont répondu aux 6 questions que les zapatistes leur proposaient. Extraordinaire, cette démarche démocratique dans un pays qui ne l'est pas a été organisée par une société civile mobilisant plus de 40 000 volontaires qui ont réussi à réunir le peuple mexicain dans le calme. 6 questions ont été posées. Entre autres, êtes-vous d'accord que les principales revendications du peuple mexicains soient terre, logement, travail, alimentation, santé, éducation, culture, information, indépendance, démocratie, liberté, justice, paix, sécurité. Bien sûr, 97% des personnes ont dit oui. D'autres questions sur les zapatistes, doivent-ils devenir un parti ? Là, la réponse est plus mitigée. Et puis, on a également demandé, doit-on garantir la présence et la participation équitable des femmes dans tous les postes de représentativité et responsabilité au sein des organismes civils et au sein du gouvernement ? 93% des personnes ont répondu oui. Toujours sur la Chine, non seulement elle ouvre doucement ses portes à la contestation, pour ne pas dire qu'elle les ferme totalement, mais elle réprime ses propres plaignantes. Ainsi, une conférence sur les femmes de réconfort tenue à Pékin à l'initiative du groupe non gouvernemental chinois des victimes de la guerre pour les demandes d'indemnisation a été interrompue par la police. Ce sont donc ces femmes qui ont été obligées lors de la guerre de se prostituer par les militaires japonais. Certaines femmes étaient là en train de témoigner quand la police est arrivée, a confisqué l'enregistrement, noté les noms des journalistes, a arrêté les responsables. La publication des documents sur les femmes de réconfort détenues par les archives chinoises est par ailleurs interdite jusqu'à la fin de la conférence mondiale des femmes à Pékin. Le responsable de l'organisation a recueilli en 6 ans 800 000 signatures de victimes de l'invasion japonaise qui demandent des indemnisations. Lui-même s'est récemment vu retirer son passeport. La Chine veut ainsi éviter d'offenser son plus grand créancier, le Japon. En 1972, au moment de la normalisation des relations sino-nippones, Pékin s'était engagé à renoncer à toute réparation de guerre de la part du Japon. Au Sri Lanka, des autobus pour les femmes. Les transports sri lankais vont mettre au service des bus exclusivement réservés aux femmes après plusieurs plaintes pour agression, pour harcèlement sexuel dans les bus mixtes. En effet, les bus sont tellement bondés que les femmes ne sont pas très contentes. Et au Cameroun, certaines femmes, les épouses de fonctionnaires, confrontées à la dévaluation et à la crise, ont pris les grands moyens. Au lieu de tergiverser, au risque de voir leur mari déambuler de porte en porte en quête d'une bouée de sauvetage, elles ont décidé de faire le clan d'eau, c'est-à-dire le taxi avec leur voiture. Les femmes de fonctionnaires, notamment, dont le salaire ne suffit plus à nourrir la famille, se sont mises à ce métier traditionnellement réservé aux hommes. Mon mari a tout d'abord été réticent à l'idée que je puisse faire du clan d'eau, mais j'ai fini par obtenir gain de cause, confie l'une des femmes. Si cela ne rapporte pas grand-chose, tout au moins, cela nous aide à payer les factures d'eau et d'électricité. Et puis cet été, la junte birmane a libéré Aung San Suu Kyi, le prix Nobel qui a été assigné à résidence depuis 6 ans. Et puis toujours des nouvelles de l'été, au Zimbabwe, au début d'août, le président Mugabe a interdit un stand pour l'association des gays et des lesbiennes du Zimbabwe à la foire du livre d'Harare. Il a réaffirmé son intransigeance face à l'homosexualité. « Je sais qu'il faut m'attendre aujourd'hui à n'importe quoi, mais ils ne font pas d'enfants, c'est bien la preuve. » Et puis pour terminer, une petite histoire iranienne. Un Iranien qui avait dupé et épousé 14 femmes pour leur argent a été démasqué et kidnappé par ses victimes. Elles l'ont séquestré pendant 2 jours en le battant et en le privant de boire et de manger. Et puis elles l'ont remis à la police. La loi iranienne permet la polygamie, le mariage de 4 femmes, mais il faut bien sûr le consentement de toutes les épouses. Voilà, c'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8 MHz. Pour terminer, je vous invite à une assemblée publique le lundi 11 septembre. C'est pour protester contre le défilé militaire qui aura lieu fin novembre à Genève. Cette assemblée publique de protestation a lieu à l'hôtel Le Grenil, rue de Sainte-Clotilde à la Jonction, le lundi 11 septembre à 20h30, avec, entre autres, comme orateurs, Erika de Berpoli, Gabriel Molini-Dreyfus, Véronique Pureau, Pierre Vanek, Paolo Gigliardi, etc., etc. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine.
Eh bien, je crois bien que les nouvelles ne sont pas terminées. Viviane remet son casque et je lui passe la parole.
Eh oui, j'ai oublié. Il y a une télé pour femmes maintenant. Pas seulement la radio, mais une télé en Allemagne. Mais c'est une télé pour femmes pas féministe. Cette télé, TM3, veut être une télé pour les femmes, faite par les femmes. À une exception près, bien sûr, le directeur est un homme. Il y aura des discussions, des talk-shows, des portraits, etc. On veut en tout cas s'éloigner uniquement des recettes de cuisine et des petites cucuteries habituelles au programme féminin. Mais le directeur continue très fortement à dire « Nous ne voulons en tout cas pas être féministes ». Eh bien, attendons pour voir. Si vous allez du côté de l'Allemagne, branchez-vous sur TM3, le programme des femmes de télé.
Alors cette fois-ci, les nouvelles, c'est terminé. Viviane vous retrouve la semaine prochaine, mercredi en direct, et puis demain, jeudi en différé, bien sûr. Restez à l'écoute, vous écoutez Radio Pleine Lune sur 93.8. C'est le retour des vacances et tout le monde est en euphorie. Alors, dans quelques instants, ce sera le Memento de Marjolaine avec des gros coups de cœur sur le Festival de la Bâtie, entre autres. Tout à l'heure, restez à l'écoute. Thank you.